Le problème du péché est la solution au problème du péché. Romains chapitre 7, verset 24 à chapitre 8, verset 6. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le conflit spirituel est la libération apparaissant dans Romains chapitre 7 et 8. Si l'on regarde les paroles de Romains chapitre 7, verset 24 jusqu'au chapitre 8, verset 6, deux états forment un contraste clair. L'un est le problème fondamental auquel l'humanité est confrontée, et l'autre est la méthode de Dieu pour résoudre ce problème. Romains chapitre 7, versets 24 à 25 déclare comme suit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » L'apôtre Paul, en regardant sa propre chair, s'est appelé lui-même un homme misérable et en exprimant sa propre chair comme un corps de mort, il a lamenté. Cependant, immédiatement après, il a rendu grâce à Dieu par Jésus-Christ. Cela s'explique parce qu'il ressentait profondément la double limite des êtres humains qui, avec l'esprit, aspirent à la loi de Dieu, mais avec la chair, n'ont d'autre choix que de servir la loi du péché. Si quelqu'un comprend le cœur de cette confession prononcée par l'apôtre Paul, on peut dire que cette personne est véritablement née de nouveau. Parce que la Bible est un livre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont habités par le Saint-Esprit peuvent profondément s'identifier au cœur de l'auteur qui a écrit ces paroles. Bien que l'apôtre Paul fût déjà un croyant né de nouveau, il souffrait en voyant son propre corps suivre encore la loi du péché et poursuivre les désirs charnels plutôt que la vie qui plaît à Dieu. Par conséquent, tout en reconnaissant qu'il est un être misérable qui sert la loi du péché avec la chair et qui n'a d'autre choix que d'aller en enfer, il rendait en même temps grâce à Dieu. Il y avait une raison claire à cela. C'est parce qu'il a obtenu le salut par la loi de l'Esprit mentionnée dans Romains chapitre 8. Jésus-Christ est venu sur cette terre et a personnellement porté tous nos péchés dans son propre corps. Afin d'accomplir l'exigence sévère de la loi selon laquelle le salaire du péché c'est la mort, Jésus a porté nos péchés et a reçu le jugement sur la croix à notre place. Ainsi, par le fait que Jésus-Christ a été mis à mort comme notre substitut, il nous a délivrés de la condamnation et a accompli le salut. La bénédiction de l'absence de condamnation accordée à ceux qui sont en Jésus-Christ. Lisons ensemble la parole de Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme il est écrit ici, en Jésus-Christ, il n'y a jamais de condamnation. Alors, qui est la personne qui n'a pas de péché en Jésus? Il n'y a jamais de condamnation signifie que le péché n'est pas établi. C'est-à-dire que Dieu déclare à cette personne qu'il n'y a plus de péché. Dieu nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quelles que soient ses insuffisances, il n'y a jamais de péché. À l'origine, la condamnation signifie que lorsqu'une personne a commis une faute, beaucoup de gens d'une seule voix la critiquent et la définissent comme un pécheur. Cependant, la proclamation de « il n'y a pas de condamnation » dont parle le texte principal d'aujourd'hui, signifie que le péché n'existe plus devant Dieu. C'est une déclaration selon laquelle, pour celui qui demeure en Jésus-Christ, le péché ne peut jamais exister. Alors, qui est la personne qui est entrée en Jésus-Christ? C'est précisément celui qui a été uni au Christ, en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toute personne, pour entrer en Jésus-Christ, doit absolument croire à cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir clairement dès maintenant si nous sommes en Christ ou en dehors. Nous devons nous examiner pour voir si nous disons croire en Jésus, mais que nous croyons simplement d'une manière religieuse, ou si nous sommes assis à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Le texte principal confirme clairement que à ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a jamais de condamnation. Même dans Éphésiens, il est dit que Dieu nous a prédestinés et choisis en Jésus-Christ, et qu'il nous a sauvés par la rédemption qui est en lui. Par conséquent, pour devenir une personne qui ne reçoit pas de condamnation, c'est-à-dire une personne sans péché, il faut croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. Si quelqu'un entre dans le Seigneur avec cette foi, il atteint un état où, même s'il cherche le péché, il ne peut pas le trouver. Qu'il n'y ait pas de péché pour celui qui est entré en Jésus-Christ est une réponse naturelle et juste, et c'est une voie beaucoup plus simple. Ce n'est pas une question de simple émotion, mais une vérité spirituelle. Les religieux qui ne connaissent pas l'Évangile comptent un à un les péchés qu'ils commettent en vivant. Et le résultat qui reste à la fin de ce calcul n'est finalement que le fait qu'eux-mêmes sont pécheurs. Plus ils comptent en ressentant les remords de leur conscience, plus ils tombent profondément dans le gouffre du péché. Cependant, les personnes qui vivent en croyant à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même si des insuffisances apparaissent dans leur vie, lorsqu'elles considèrent les choses par le sang et le mérite du Seigneur, réalisent le fait qu'il n'y a pas de péché en elles. Alors, qui est la personne qui ne reçoit jamais de condamnation et qui n'a pas de péché? C'est précisément celui qui croit complètement à l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. Deux lois, de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit de vie. Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, deux sortes de lois existent. L'une est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus, et l'autre est la loi du péché et de la mort qui provient de la loi. Dieu a établi ces deux lois, et l'apôtre Paul confesse que la loi de l'esprit de vie en Jésus l'a libéré de la loi du péché et de la mort produite par la loi. Il en est de même pour nous. Si nous ne croyons pas à la parole de salut que notre Seigneur a donnée et que nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, nous ne pouvons qu'être placés sous la loi du péché et de la mort. Celui qui est dominé par cette loi finit par recevoir le jugement à cause de son propre péché et par parvenir à la destruction. Cependant, la personne qui est entrée en Jésus en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit est différente. C'est parce que cette loi du salut, par laquelle le Seigneur venu sur cette terre a effacé tous nos péchés par le baptême et le sang de la croix, nous rend libres. Le fondement de la déclaration mentionnée au verset 1, selon laquelle il n'y a jamais de condamnation et l'on ne reçoit pas de jugement pour le péché, se trouve précisément ici. Le verset 2 nous dit clairement que la réponse se trouve dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Le Seigneur, sachant que les êtres humains sont des êtres faibles qui ne peuvent s'empêcher de commettre le péché, a établi ensemble la loi et la loi du salut. Si quelqu'un ne parvient pas à garder la loi, qui est le commandement de Dieu, le péché est établi, mais en même temps, il a préparé la loi du salut pour nous secourir. Cette loi de l'Esprit est la loi par laquelle Dieu a envoyé son Fils, l'a fait concevoir par le Saint-Esprit et lui a fait porter tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean. Elle parle également de la loi qui a complètement effacé nos péchés et donné une nouvelle vie par sa mort sur la croix et sa résurrection. D'autre part, la loi du péché et de la mort désigne le commandement de Dieu donné à l'humanité, c'est-à-dire la loi. Si quelqu'un ne garde pas cette loi qui dit « fais ceci » ou « ne fais pas cela », il devient pécheur et atteint la mort et l'enfer comme prix de ce péché. Celui qui nous sauvera de cette loi sévère est uniquement Jésus-Christ. Nous devons connaître avec précision et croire comment Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a spécifiquement sauvés. Beaucoup de chrétiens connaissent de bien le premier, la loi, mais ils montrent une faiblesse surprenante concernant la puissance concrète du second, l'Évangile. Ce n'est que lorsque l'on connaît avec précision la vérité que Jésus nous a sauvés que la vraie foi naît, et ce n'est qu'en ayant cette foi que l'on demeure finalement en Christ et que l'on reçoit le Saint-Esprit comme un don. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit vient, que l'on peut comprendre la parole de Dieu, écouter correctement les sermons et obtenir la capacité de prêcher l'Évangile aux autres. De plus, les tourments du péché disparaissent de la conscience. Par conséquent, nous devons avoir une conviction plus forte dans cette loi de l'Esprit, c'est-à-dire la vérité de l'Évangile. Beaucoup de chrétiens sur la terre disent « croire en Jésus ». Mais malheureusement, la réalité est que la majorité est faible dans la vérité de la loi de l'Esprit, qui est le cœur de l'Évangile. Ils s'efforcent de ne pas commettre de péché afin de ne pas parvenir à la mort sous la loi du péché et de la mort, mais cela n'est pas possible par la force humaine. la justice parfaite accomplie par Dieu au-delà de la faiblesse de la chair. Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. L'apôtre Paul explique clairement la raison pour laquelle notre chair ne peut pas garder la loi. C'est précisément à cause de la faiblesse humaine. Avec l'esprit, nous savons que la loi est bonne et juste, mais notre chair est si faible qu'elle n'a pas la force de garder parfaitement cette loi. Par conséquent, en ne gardant pas la loi, nous devenons pécheurs et nous sommes placés sous la loi selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a accompli l'œuvre que les humains ne pouvaient pas faire. La Bible dit « en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché ». Ici, le fait qu'il ait condamné le péché signifie que Dieu a envoyé Jésus sur cette terre et a transféré tous nos péchés sur son corps. Ce processus spécifique est rapporté dans Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors il le laissa faire. Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Jean tenta de l'en empêcher, mais le Seigneur déclara que c'était la manière convenable d'accomplir toute justice. Lorsque Jésus fut baptisé et qu'il remonta de l'eau, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La raison pour laquelle Dieu le Père a été satisfait en voyant Jésus être baptisé est que toute la justice de Dieu a été accomplie par ce baptême. Ici, toute justice signifie le processus saint de transférer tous les péchés de l'humanité à Jésus. Par le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, tous les péchés du monde ont été transférés à Jésus. Et par cela, Dieu a accompli le plan de nous rendre sans péché. Celui qui a planifié cette œuvre merveilleuse est Dieu le Père, et celui qui a personnellement porté ce péché est Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Romains chapitre 8, « Il a condamné le péché dans la chair ». Le salut qui ne pouvait jamais être accompli par notre faiblesse, Dieu l'a résolu d'un seul coup en transférant le péché dans la chair de son Fils. Qu'est-ce que croire en Dieu? C'est précisément croire à l'œuvre que Dieu a accomplie. Croire en celui que Dieu a envoyé est l'œuvre de Dieu, et la vraie foi consiste à accepter tel quel le fait du salut que Dieu a accompli pour nous. Par conséquent, vous ne devez pas essayer de croire en votre propre sincérité ou vos efforts, mais vous devez fixer votre esprit sur le fait de la manière dont Dieu a ôté vos péchés et croire. Aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent toute leur vie avec de profondes blessures dans leur cœur après un divorce. Ils ressentent un sentiment de trahison à cause de l'infidélité du conjoint et vivent en souffrant au milieu de la douleur d'avoir été laissés seuls. Cependant, je suis convaincu que s'ils avaient vraiment connu et cru à cet évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'auraient pas vécu en portant cette blessure toute leur vie. Au contraire, ils auraient vécu une vie heureuse en pardonnant et en supportant leur conjoint et surtout en se pardonnant eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes pitoyables qui terminent leur vie enfermées dans les souvenirs de la trahison et des blessures amères. S'ils avaient cru à cette vérité selon laquelle, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, la situation aurait été différente. Car cet évangile est la puissance qui nous fait échapper aux blessures et qui fait vivre heureusement à la fois l'âme et la chair. Dieu a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu chapitre 5, verset 28. Même si quelqu'un n'a pas commis de péché par ses actes, s'il y a déjà du péché dans son cœur, cette personne est un pécheur qui n'a d'autre choix que d'aller en enfer devant Dieu. Cependant, beaucoup de personnes ne peuvent pas tolérer les fautes des autres tout en ne se voyant pas elles-mêmes. Bien qu'eux-mêmes soient aussi des êtres humains faibles, ils condamnent seulement l'autre comme une mauvaise personne. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter les autres, ils finissent par tomber dans le marécage de la condamnation. Dans leur cœur, ils tuent l'autre d'innombrables fois, haïssent et déversent leur colère. Aux yeux de Dieu, cette personne qui tue et hait l'autre chaque jour dans son cœur peut commettre un péché plus grand que celle qui a commis une faute par acte. Dieu déclare clairement que la loi exige la sainteté, la justice et la vérité, mais que notre chair est faible et ne peut jamais y parvenir. Parce que tous les êtres humains naissent avec le péché, ils ne peuvent être ni saints ni véridiques et n'ont d'autre choix que d'être impurs. La loi elle-même est juste et droite, mais nous possédons une chair et une nature faibles qui ne peuvent pas l'observer. Toi et moi, nous devons tous deux reconnaître le fait que nous sommes des êtres qui ne peuvent absolument pas vivre selon la loi. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus comme notre Sauveur et a condamné tous nos péchés en lui. Ce n'est pas simplement une histoire théorique. Que la loi de l'Esprit nous ait sauvés de la loi du péché et de la mort signifie qu'en réalité, tous nos péchés sont passés à Jésus. Les péchés commis parce que le mari était insuffisant, ainsi que les pensées et les actions issues de mon cœur mauvais, ont tous été transférés à Jésus-Christ. Au moment où Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, les péchés de toute l'humanité lui ont été imputés en une seule fois. À l'origine, le mot « baptême » contient le sens profond de « faire passer » et « imputer » en plus des significations de « laver » et « ensevelir ». La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix est qu'il a reçu les péchés transférés par ce baptême. Parce qu'il a porté tous nos péchés dans son corps, il nous a rendus purs en versant son sang et en mourant comme prix. Par le baptême, Jésus a pris sur lui en une seule fois tous les péchés que tu commettras durant toute ta vie. La puissance du baptême est vraiment immense. C'est comme déverser une avalanche de bombes ou comme verser du riz dans un récipient, recouvrant Jésus de nos péchés en une énorme masse. Le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver et après avoir reçu et s'être couvert de tout le péché de l'humanité par le baptême, il a été cloué sur la croix. C'est précisément l'événement du salut qui a accompli toute la justice de Dieu. Par conséquent, de nombreuses personnes qui vivent toute leur vie dans la douleur en grinçant des dents à cause des blessures reçues d'un conjoint ou des difficultés économiques doivent croire à cet évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est qu'en croyant à cette vérité que l'on peut sincèrement pardonner au conjoint et que moi-même je peux aussi parvenir au salut. Parfois, il y a aussi des personnes qui souffrent parce qu'elles ne peuvent pas se pardonner elles-mêmes et non les autres. En disant « Pourquoi ai-je fait cela à l'époque ?», elles se blâment, se maltraitent et crient intérieurement. Cependant, si quelqu'un réalise le véritable évangile, il en vient à savoir que Jésus a déjà pris sur lui-même les aspects que moi-même je ne pouvais pas supporter. Aujourd'hui, nous voyons la réalité tragique des personnes modernes qui se maltraitent et se font du mal à elles-mêmes avec l'auto-reproche et le regret, et qui vont même jusqu'à se précipiter vers le suicide ou l'agression envers les autres au milieu de la souffrance mentale. J'insiste encore une fois que la seule clé qui peut briser cette chaîne de douleur est précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'unique réponse urgente pour toute l'humanité, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a des personnes qui, incapables de supporter les fautes qu'elles ont commises, se font du mal à elles-mêmes, gémissent et s'efforcent de se purifier avec minutie comme si elles souffraient d'une maladie mentale. Cependant, peu importe combien elles lavent et essuient, le péché du cœur ne disparaît pas. Cette douleur extrême conduit finalement à la tragédie appelée suicide ou à une intention meurtrière envers les autres. Même si quelqu'un a commis une grande faute et a vécu dans le manque, s'il connaît le vrai sens du baptême que Jésus a reçu, il ne se détruira jamais. Si quelqu'un croit au fait que Jésus a pris sur lui-même mes péchés les plus terribles par le baptême et qu'il m'a sauvé en étant cloué sur la croix à ma place en portant ses péchés, il confessera plutôt des actions de grâce devant Dieu. C'est précisément la raison pour laquelle l'apôtre Paul a crié « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est entièrement submergé par le courant du péché, que l'on soit croyant ou non. Tout s'écoule en suivant l'instinct et la convoitise de la chair. Dans ce monde où le péché est omniprésent et en vivant avec une chair aussi insuffisante, peut-on obtenir le salut en croyant seulement au sang de la croix? Pour être complètement sauvé du péché, il faut croire ensemble au baptême que le Seigneur a reçu de Jean, c'est-à-dire à ce baptême qui a accompli toute justice et a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, ainsi qu'au sang de la croix. Sans croire cela, on ne peut jamais être libéré du péché. Nous sommes des êtres qui commettons le péché dès que nous ouvrons les yeux. Le mot grec « amartia », signifiant « péché », implique l'état où une flèche a manqué la cible. Nous devons vivre une vie de sainteté et de justice, d'amour et de sacrifice, qui est la volonté de Dieu. Mais dès le moment où nous ouvrons les yeux, nous vivons une vie qui manque la cible. Même en regardant simplement la culture populaire d'aujourd'hui, la convoitise débridée de la chair se manifeste sans filtre et les gens s'y livrent sans retenue, puis meurent. L'apparence de cette génération qui se rencontre et se sépare facilement à travers Internet et les discussions en ligne est précisément l'état actuel de l'humanité. En vivant dans un tel monde, comment peut-on recevoir la rémission des péchés sans passer par l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Dieu a accompli par son Fils l'œuvre que notre chair ne peut pas faire. Il a condamné tous nos péchés dans la chair de Jésus, et après lui avoir fait porter la responsabilité de ses péchés par le baptême, il lui a fait subir à notre place le châtiment de la mort sur la croix. Sans croire à cet évangile, personne ne peut échapper au péché et au jugement. Ce dont l'humanité a le plus besoin maintenant, ce n'est ni la connaissance ni la moralité, mais précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que ce soit pour une personne qui ne connaît pas Jésus, pour une personne qui croit déjà en Jésus, ou pour une personne qui fréquente simplement l'Église de manière religieuse, la chose la plus urgente est uniquement cet évangile de vie. Dites-vous que l'on reçoit la rémission des péchés si l'on croit seulement au sang de la croix ? Cela peut sembler valable religieusement, mais ce n'est pas le véritable évangile ni la vérité. Le Seigneur est-il venu sur cette terre et a-t-il agi seulement à la croix ? Non. Le Seigneur a pris sur lui tous nos péchés par le baptême. Comme le dit la Bible, il a condamné le péché dans la chair. Le Seigneur nous a sauvés en mourant sur la croix, après avoir porté nos péchés. Qui donc enseigne que l'on est sauvé uniquement par le sang de la croix ? Dans ce monde où le péché est si répandu, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de péché sans croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Et comment peut-on appeler cela une vie de foi ? Ce n'est pas une foi vivante, mais seulement une religion morte. Ce monde est rempli de péchés, que ce soit dans le passé ou maintenant. Était-ce différent autrefois ? Même dans le passé, ceux qui avaient pouvoir et richesse entretenaient des concubines et fréquentaient des maisons de courtisanes, commettant ouvertement le péché. D'un autre côté, les pauvres étaient souvent tués ou chassés pour une petite faute. À cette époque, comme aujourd'hui, seul l'évangile de l'eau et de l'esprit était urgent pour l'humanité. Cependant, Satan et les hommes ont dissimulé cette vérité. Essayez de vous rappeler le jeu de relais de mots des émissions de divertissement télévisées. Si l'on transmet un message en se bouchant les oreilles et en regardant seulement le mouvement des lèvres, même après seulement 5 personnes, les mots « je t'aime » deviennent « je t'aime bien ». L'évangile est aussi ainsi. L'évangile originel de l'Église primitive était clairement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, après l'époque apostolique, lorsque le christianisme est devenu la religion d'État de Rome, l'évangile a été altéré avec le temps. Avec le baptême de Jésus omis, seules des formes extérieures comme le sang de la croix et les croisades sont restées. Et en conséquence, les ténèbres spirituelles sont arrivées et ont continué jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de gens disent encore qu'ils reçoivent la rémission des péchés en croyant seulement au sang de la croix. Réfléchissons si cela est réellement possible. Supposons que vous ayez commis un péché maintenant. Si vous péchez, vous ressentirez les remords de votre conscience et chercherez à résoudre ce problème. Vous irez devant la croix et prierez « Seigneur, merci d'avoir versé ton sang et d'être mort pour moi. S'il te plaît, pardonne ce péché. » Mais que faites-vous si vous commettez à nouveau un péché 2 heures plus tard ? Vous demanderez encore le pardon. Si vous continuez à pécher 3 heures plus tard, 5 heures plus tard, vous devez supplier à chaque fois « S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis sans honte, mais ferme les yeux juste cette fois. » Alors que se passe-t-il lorsque vous commettez un péché qui est grand, même à vos propres yeux ? Les remords de la conscience sont si lourds que les paroles pour demander pardon ne sortent même pas de votre bouche. Vous en venez simplement à utiliser de vaines répétitions en disant « Seigneur, tu sais, n'est-ce pas ? Tu connais mon cœur, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une foi parfaite. » Finalement, avec un cœur frustré, on va prier à la montagne, on fait des jeûnes et on s'accroche à Dieu en restant affamé pendant 100 jours. On redescend en pensant « Puisque j'ai souffert ainsi, Dieu passera probablement cela. » Mais notre chair est un être qui recommet le péché en quelques heures. Essayez d'effacer le péché en s'attachant seulement au sang de la croix et en se repentant chaque jour est quelque chose que même la conscience humaine ne peut supporter. Si l'on répète le même péché et que l'on demande pardon, non pas une ou deux fois, mais pendant 10 ou 20 ans, on finit par ressentir de la honte en pensant, même une puce à un visage, et on ne peut plus continuer ainsi. Ainsi, finalement, on tente d'apaiser sa conscience en disant « tu sais », mais à la fin, on atteint l'état où l'on ne peut même plus se supporter soi-même. Dans une religion où l'on fabrique soi-même un Dieu et où l'on offre sa sincérité, cette méthode peut être possible. Cependant, ce n'est pas la loi du salut établie par Dieu. Toutes les religions du monde ne sont finalement rien d'autre que des cadres fabriqués par les humains. Non seulement d'autres religions comme le bouddhisme, l'islam, le confucianisme et le taoïsme, mais aussi le christianisme, s'il est cru avec des pensées humaines, tombe simplement parmi les nombreuses religions. Beaucoup de gens se consolent en disant « Seigneur, tu sais ». Dans le cadre doctrinal que l'on s'est fabriqué, cela peut être possible, mais si l'on se tient devant la loi de Dieu, la situation devient différente. C'est parce que dans la parole de Dieu, les lois sévères, le salaire du péché c'est la mort, et « tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé le dernier sou » sont vivantes. Si le péché reste même un tout petit peu, le résultat est seulement la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Dans le cadre religieux que l'on s'est fabriqué, on peut peut-être endurer 10 ans, 20 ans et recevoir la reconnaissance des gens. Cependant, devant la vérité et devant Dieu, on ne reçoit jamais de reconnaissance. Voulez-vous recevoir la reconnaissance de Dieu ou voulez-vous recevoir la reconnaissance de vous-même ou des gens? Le cœur qui désire recevoir la reconnaissance de Dieu est l'instinct d'une bonne conscience que Dieu nous a donnée. Si l'on croit au christianisme de manière religieuse, on semble endurer jusqu'à un certain point. Mais finalement, on se heurte à une limite. C'est parce que sa propre conscience ne se tolère pas elle-même. Nous devons croire en Jésus-Christ, mais nous devons croire selon la parole écrite. Placez honnêtement votre conscience devant la parole de Dieu et examinez. Si vous comptez si vous avez bien agi ou mal agi, le résultat qui reste à la fin n'est finalement qu'un énorme amas de péchés. Comment pouvez-vous traiter ce péché insoluble? Cela n'est possible qu'en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a donné. Vous devez croire à cet amour salvateur que le Dieu juste a manifesté en opérant la rémission de tous nos péchés. Dieu a fait porter tous nos péchés sur le corps de Jésus. Croyez à ce fait indéniable, tous les péchés que nous commettrons durant toute notre vie sont déjà passés sur sa tête lorsque Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Ainsi, le Seigneur a porté le péché du monde entier. Non seulement vos péchés, mais aussi les péchés des ancêtres, les péchés des descendants, les péchés des amis, et même les péchés des criminels les plus odieux ont tous été transférés à Jésus par le baptême. Acceptez cela tel quel, c'est la vraie foi. En vivant dans ce monde rempli de péchés, sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en s'attachant seulement au sang de la croix, on ne peut jamais obtenir un salut parfait. L'erreur de la religion est la réalité de la vie spirituelle. Croire que seul le sang de la croix constitue l'ensemble de la rémission des péchés n'est pas une vraie foi. Cela n'est qu'un acte religieux qui ne diffère en rien de l'hypocrisie des pharisiens. Ce n'est qu'une forme de purification émotionnelle qui tente d'apaiser sa propre conscience avec le sang de la croix, prétendant croire en la justice de Dieu tout en trompant ses propres émotions et sa conscience alors que ses péchés n'ont pas réellement disparu. Ce n'est pas parce que la majorité suit un certain chemin que cela devient la vérité. Voulez-vous vraiment vous tenir sans péché devant Dieu? Si vous voulez devenir une personne véritablement juste qui reçoit la reconnaissance de Dieu seul, et non celle des hommes ou des groupes religieux, vous devez vous tenir correctement devant cet évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous qui vivons dans un monde rempli d'iniquité et qui possédons une chair insuffisante, prétendre croire seulement au sang de la croix, en excluant l'évangile de l'eau et de l'esprit, est un acte qui trompe à la fois sa propre conscience et Dieu. Cela ne diffère en rien d'une conscience pourrie. De même qu'un kaki non mûr tombé au sol pourrit en quelques jours et se couvre de moisissures, ceux qui ont une conscience corrompue se contentent d'une foi stagnante en insistant uniquement sur le sang de la croix. Croire que l'on reçoit la rémission des péchés seulement par le sang de la croix dans un monde où le péché est si abondant est une chose véritablement ignorante et insensée. Malheureusement, dans le christianisme d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui ont ce type de foi. Jésus a parlé clairement dans Jean chapitre 3. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Concernant la signification de l'eau, ici, 1 épître de Pierre, chapitre 3, verset 20 et 1 donne une réponse claire. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, le baptême n'est pas un simple ajustement de l'apparence extérieure, mais c'est le signe du salut par lequel nous recevons la rémission spirituelle des péchés afin que notre conscience puisse aller vers Dieu. L'apôtre Paul a également reçu le salut du péché en croyant à cet évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi il a pu confesser « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ressentez-vous cette confession dans votre cœur? Paul a également dit « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Notre esprit veut croire à l'évangile, servir le Seigneur et avancer, mais notre chair poursuit constamment ses désirs. toutes ces choses qui consistent à suivre la convoitise de la chair sans pouvoir vivre selon la volonté de Dieu qui désire la sainteté deviennent péchés devant Dieu. Pour nous, Jésus est venu sur cette terre et, en recevant le baptême, il a fixé, c'est-à-dire condamné, tous nos péchés sur son propre corps. Regardons maintenant les paroles des versets 4 à 6. « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains chapitre 8, versets 4 à 6. Ce passage nous pose une question. Suivrons-nous la chair, qui est une doctrine fabriquée par l'homme et une pensée religieuse? Ou suivrons-nous l'esprit, selon la parole de Dieu? Si nous restons dans la pensée de la chair, nous ne pourrons jamais échapper au joug du péché jusqu'au jour de notre mort. Cependant, si nous nous attachons à la parole de Dieu et suivons l'esprit, nous réalisons un fait. C'est le fait que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés en recevant le baptême et qu'il a reçu à notre place tout le jugement du péché en versant son sang et en mourant sur la croix. C'est précisément la réalité du salut par laquelle notre Seigneur a parfaitement accompli pour nous l'exigence de la loi. En prenant sur lui tous nos péchés par le baptême et en recevant à notre place le jugement pour ses péchés sur la croix, le Seigneur nous a parfaitement sauvés, toi et moi. Par conséquent, ceux qui croient correctement en Jésus rejettent les choses de la chair et suivent les choses de l'esprit. La Bible le dit clairement. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, versets 5 à 6. Un véritable homme de foi ne suit que la parole de Dieu et non les doctrines fabriquées par les hommes. Aller quand la parole dit d'aller et s'arrêter quand elle dit de s'arrêter, voilà la vraie foi. On ne doit pas être lié aux doctrines ou aux pensées de dénominations spécifiques telles que le presbytérianisme, le mouvement de sainteté, les baptistes ou le plein évangile. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont piégés dans les doctrines étroites qu'ils ont apprises, insistant sur le calvinisme, la prédestination ou le charismatisme, et ils manquent l'essence même. Cependant, la vérité de la Bible est claire, c'est que si l'on croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit, on obtient la rémission des péchés. Si l'on obtient la rémission des péchés, on reçoit le Saint-Esprit comme don. Et par conséquent, on devient un enfant de Dieu et on parvient à la gloire. Tout ce processus est accompli en une seule fois par le mérite du Seigneur. En vivant dans un monde rempli de péchés, même une personne qui a reçu la rémission des péchés est un être faible qui ne peut s'empêcher de servir la loi du péché avec la chair, bien qu'elle désire la loi de Dieu avec l'esprit. Comment pouvons-nous, étant ainsi, vivre sans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné? Même pour une personne née de nouveau, la chair reste insuffisante. Ceux qui croient simplement de manière religieuse ne sont même pas encore entrés en Christ. Pour résoudre toute cette misère, le Seigneur a pris la responsabilité du péché par le baptême et a complètement ôté le péché par le jugement de la croix. La Bible proclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Parce que le Seigneur a pris sur lui tous les péchés du monde, il nous a parfaitement sauvés du péché. Il est notre Sauveur et il nous a rendus justes sans péché. Croyez-vous vraiment à ce fait? Si vous examinez profondément la Bible verset par verset, vous pouvez voir à quel point le christianisme d'aujourd'hui s'est éloigné de l'essence. Le péché disparaît-il par les prières de repentance qui sont un moyen humain? Cela n'est qu'un expédient pour apaiser sa propre conscience. De même que dire à quelqu'un que l'on a eu tort n'efface pas la peine légale d'un crime, le salaire du péché doit être la mort. À l'endroit même où vous deviez mourir, Jésus-Christ nous a sauvés en prenant sur lui vos péchés par le baptême et en mourant sur la croix à notre place. Chrétiens du monde entier, maintenant vous devez vous réveiller. Comment peut-on être appelé saint en gardant le péché dans son cœur et comment un être humain avec le péché peut-il se dire juste? Si le péché demeure dans le cœur, cette personne n'est qu'un adepte de la religion appelée christianisme. Et non un véritable chrétien qui suit Jésus. Vous devez garder à l'esprit que celui qui ne croit pas cela, bien que le Seigneur ait si parfaitement pris tous nos péchés et nous ait sauvés, finit par marcher sur le chemin de devenir un ennemi de Dieu.